C'est un beau cadeau marial, maternel, de nous offrir aujourd'hui deux servants de messe supplémentaires. C'est le cœur d'une mère qui nous les offre, de deux mères du reste, celle qui est montée et celle qui est ici. Merci. C'est si important d'avoir des enfants de cœur autour de nos autels. Nous prononçons, déclarons et définissons comme un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire céleste. Ainsi s'exprimait le pape Pie XII dans la constitution dogmatique « Munificentissimus Deus ». Déclarait donc le dogme de l'Assomption. La créature qui est ici désignée, Marie, n'est pas seulement une femme et une vierge, c'est aussi une mère. Or, la question peut se poser de découvrir comment a été réalisée en Marie cette maternité qui dure encore. Quomodo fiet istud, déclare-t-elle à l'ange Gabriel dans le récit de l'Annonciation. Quomodo fuit istud, comment cela a été? Les textes de la liturgie eux-mêmes attirent notre attention sur la maternité de Marie. Élisabeth, dans l'Évangile, ne s'éclame-t-elle pas « Tu es bénie entre toutes les femmes » avant d'ajouter « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? » Comment donc s'origine cet état de mère en Marie ? L'Écriture sainte, jointe à l'étude de quelques pères de l'Église, nous en offre une explication magistrale, ce qui est bien le jour. Jérôme écrit en effet au sujet de Marie cette chose tout à fait étonnante. Vierge après l'enfantement, mère avant d'être épousée. Mater ante nupta. Le livre de la Genèse affirme de Dieu ceci. Homme et femme, il les créa. C'est dans nos traductions. Il s'agit en effet de la traduction française qui pose un réel problème. Dans notre langue, en effet, le terme « femme » désigne autant le caractère sexué d'une personne, car on est femme, on ne le devient pas, que le fait d'être épouse, comme le montre l'expression « mari et femme », présente, si je ne m'abuse, jusque dans le rituel du mariage. Le texte original en langue hébraïque parle de Zakar et de Nkena, ce qui en grec est rendu par Arsène et Tellus, et en latin par Masculus et Femina, littéralement mâle et femelle. Comme on l'entend, il n'est pas encore question de femme. Un peu plus loin, nous apprenons que ce couple est désigné comme Ish et Isha en hébreu. On pourrait peut-être dire compagnon. Ou bien Andros et Guné en grec, qui précise donc qu'il s'agit cette fois-ci d'un homme et d'une femme. Le latin, la Vulgate, ajoute une nuance et parle de vir, mari, et uxor, épouse. Il n'est donc toujours pas question de mère. Ce n'est qu'au chapitre 3e du même livre de la Genèse qu'apparaît le mot « mère » dans les trois langues simultanément. Ce dernier passage est tout à fait éclairant sur la signification du nom que donne Adam à sa compagne. Il l'appela Ève, dit le texte, car elle est la mère de tous les vivants. L'hébreu rend ce que j'ai nommé compagne par Isha et le grec par Guné, c'est-à-dire femme, tandis que le latin parle encore de uxor. Or, au moment où Adam désigne ainsi sa compagne, fait remarquer Tertullien, père de l'Église du IIe, IIIe siècle, Ève n'a pas encore enfanté. Elle est donc femme, épouse et vierge. Et pourtant, son nom s'inscrit déjà dans la réalité d'une maternité dont elle porte le nom comme la vivante. Cependant, la tradition grecque donne dans la Bible au terme « gynée » le fait d'une femme épousée qui a enfanté, ce qui fait référence au latin « mulier ». C'est un peu compliqué tout ça, mais il fallait le dire. Ainsi, le message de l'ange Gabriel au moment de l'Annonciation est éclairé du poids de ses sens croisés. Certains manuscrits grecs indiquent en effet que Gabriel s'est adressé ainsi à Marie, et ces manuscrits ont été repris en latin dans la Vulgate, « Ave Maria, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus ». Je te salue Marie, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes. Parole qui, dans nos traductions modernes, ne figure plus que dans la bouche d'Élisabeth. Nous l'avons entendu dans l'Évangile qui a été proclamé. Ces femmes qui sont des mulieres, c'est-à-dire des femmes ayant enfanté et devenues mères, l'ange lui-même ici déclare Marie non seulement vierge, mais également mère, c'est-à-dire moulière. Le même ange dira plus tard à Joseph de prendre chez lui son épouse, uxor. Les trois titres de vierge, épouse et mère sont donc réunis en Marie dès son entrée dans l'histoire de l'humanité. Mater ante nupta, mère avant d'être épousée. Au pied de la croix, Jésus rendra cette vérité publique et la consacrera en déclarant devant Marie et Jean, « Femme, moulière, voici ton fils. Fils, voici ta mère, mater. » Marie ne nous est donc pas donnée comme mère, elle nous a été donnée mère. C'est pour ainsi dire une donnée ontologique chez elle. Marie est née mère parce que ce sera sa mission, la mission qu'elle recevra de son fils pour le bien de l'humanité tout entière. En elle donc se réalise la plénitude de la maternité qui prend soin de tous ses enfants, non pas comme une mère, mais en étant ce qu'elle est, mère. Mère et vierge avant l'enfantement de Jésus, mère et vierge pendant l'enfantement de Jésus, mère et vierge après l'enfantement de Jésus. Que dire de plus ? Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. Amen.